voix nue. Toute cette semaine, Maïlys Besseri rencontre Jacques Attali. Ce soir, naissance d'une pensée.
Jacques Attali, bonsoir.
Bonsoir.
Hier, nous évoquions l'Algérie de votre enfance, mais aussi l'Algérie en guerre, telle que vous avez pu l'observer de l'intérieur à travers le basculement politique de certains de vos camarades. Et votre arrivée en France en 1956, 6 ans avant ce que l'on appellera les rapatriés. Comment se passe votre adaptation parisienne? D'ailleurs, est-ce que le terme est approprié?
D'abord, hier, j'ai oublié de parler d'un point qui est très important pour moi, c'est mes maîtres. J'avais des instituteurs extraordinaires. Et je me souviens encore du nom de plusieurs d'entre eux, qui m'ont marqué, beaucoup appris. C'est vraiment ce privilège d'avoir des grands instituteurs. Et quand je suis arrivé à Paris, en 4e, l'intégration a été difficile parce que nous n'avions personne, absolument aucun membre de notre famille. Donc on arrive dans un très bel endroit, mais seul, avec une mère qui travaillait et qui pleurait beaucoup parce qu'elle était seule, sans aucun membre de sa famille ici, elle pleurait beaucoup. Avec son mari, donc mon père, qui faisait des allers-retours et qui nous laissait seuls des mois entiers. En plus, il n'y avait pas le soleil, il y avait la pluie, des choses qu'on connaissait pas, quoi, le froid. Bon, il y a d'abord une longue période de vacances, d'avril à octobre ou septembre, parce qu'on est, donc on part en vacances, tout ça, ça se passe bien, et puis quand la rentrée commence, on arrive en classe, on connaît absolument personne, on est à Janson, pas spécialement bien reçu, je me souviens, on est quand même en 56, donc on n'est pas loin de la guerre encore, donc je me souviens de gens qui étaient des enfants de collabos, qui l'avouaient comme tel, et qui trouvaient que la guerre n'avait pas fini son travail, que la résistance est là, avait été, je me souviens, inique, et que le traitement qui avait été réservé aux collaborateurs était scandaleux. Enfin, je me souviens de ça dans ma classe.
Hein. Quelque chose de très violent dans le discours qui
très
persiste
violent, oui.
une dizaine d'années après.
Une dizaine d'années après. À une époque où on ne connaît pas encore très bien les camps, parce que tout ça est encore très censuré dans l'esprit collectif, par les survivants des camps aussi, puisqu'en dehors du livre de David Rousset ou du livre de Primo Levi, les grands livres paraissent justement en 56. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à pouvoir parler. Et donc, je me trouve... on est très seul. Je me fais quelques amis, mon frère et moi. On s'est fait des amis en vacances, mais là encore, des amis en vacances. On était à Deauville, dans un très bel endroit, mais en même temps... étant juif, on n'était pas invité. Je me souviens qu'on allait au tennis avec eux, mais on n'était pas invité dans les soirées de... des gens de notre âge, on était très, très seuls. Et à Paris, de même, on n'était pas beaucoup invités.
Vous arrivez en avril 56, donc oui. C'est la fin de l'année scolaire.
Oui.
Vous ne pouvez pas être scolarisé
non.
Tout de suite.
Non, on rentre en classe, on fait rien, donc on s'ennuie à Paris. Donc mon père nous demande ce qu'on veut faire. Je dis, on a des livres, on lit, on achète 2-3 livres, puis après, il nous dit, puisque vous voulez lire... et qu'il faut lire, on est descendu à la librairie d'à côté, je me souviens, c'est le Bergamasque, rue de la Pompe, et il a acheté l'intégrale de la Pléiade, qui à l'époque n'était pas aussi grande qu'aujourd'hui, mais était quand même grande, il y avait une centaine de volumes, je pense.
Qu'on retrouve encore aujourd'hui chez vous?
Oui, on s'est partagé en trois, entre mon frère, ma sœur et moi. Et on a commencé à lire, je me souviens, Tolstoï, Shakespeare, Balzac.
La lecture, c'était quelque chose d'omniprésent dans votre foyer?
Ça reste omniprésent, ça reste... Attends, j'ai lu énormément, tout le temps. Très vite. Je me souviens, mes premières lectures, c'était Balzac, beaucoup. C'était Marivaux, Molière, Shakespeare, Tolstoï, Dostoïevski. Ça, c'était...
La littérature classique,
oui,
internationale.
Hugo, et puis... moi, je suis un grand romantique, donc... Marivaux et Musset, c'était à cette époque. Puis je me suis mis à continuer à faire ce que je faisais à Alger, c'est-à-dire du piano. Mon frère et moi, on avait un merveilleux professeur ici qui était une élève d'Alfred Cortot.
Ça faisait partie d'une certaine éducation bourgeoise que d'avoir un enseignement musical?
Oui, sans doute, mais une sorte de bourgeoisie par imitation, parce que mes parents étaient des bourgeois sans contexte bourgeois dans leur famille. Il n'y avait pas de bourgeois dans la famille de mes parents. Mon père était le seul à avoir réussi parmi tous les membres de sa famille.
Mais la volonté de vous faire accéder.
Oui, voilà. Donc,
aux
on
arts.
Fait du piano. Ma mère trouvait un merveilleux professeur, Madame Renoir, qui était l'élève d'Alfred Cortot, donc le grand professeur, le grand musicien, qui lui-même était un, je l'ai appris après, un collabo notoire, mais malgré tout un immense, par ailleurs, un immense pianiste. Et on, donc on fait du piano, beaucoup, et puis voilà, donc ma vie se passe au lycée, avec des profs merveilleux, et en musique. Je lis, je fais beaucoup de piano, j'écoute beaucoup de musique, je me souviens, j'avais, je sais pas si c'est 30 francs ou 3000 francs, je crois que c'est 3000 francs d'argent de poche, sans raconter, c'est le souvenir que j'en ai.
Et ancien franc.
Ancien franc, bien sûr. Et il y avait... on est avant les nouveaux francs. Et il y avait en face du lycée un disquaire. Et il me fallait 2 semaines d'argent de poche pour acheter un disque. Et tout mon argent de poche passait dans l'achat des disques, que j'ai encore d'ailleurs.
Et là, c'est la musique classique.
Chopin, Schumann. J'avais 5 ou 7 interprétations de chaque des valses, des mazurkas, des nocturnes, des préludes, des concertos. Et puis Chopin, puis ensuite est arrivé un grand pianiste qui m'a bouleversé, qui était Georgi Tsifra. J'ai écouté en boucle la Rhapsodie hongroise de Liszt par Georgi Tsifra, et ça a été un bouleversement pour moi. C'était en 57, je pense.
Donc les musiques méditerranéennes n'ont absolument pas voyagé jusque chez vous.
Non, mais j'ai jamais écouté les musiques méditerranéennes. Jamais. Encore une fois, nous étions coupés de la culture arabe, donc je ne connaissais pas le judaïsme intégré dans l'islam d'Enrico Macias. C'est pas du tout le mien.
Pas du tout.
Non, pas du tout.
La musique, elle reviendra par petites touches.
Même si mon père connaissait très bien, lui, cette musique-là. Mais il a tout fait pour nous couper. Mes parents parlaient entre eux en arabe, mais ils nous ont empêchés d'apprendre cette langue. Ce qui est triste, parce que ça aurait été un pouvoir considérable, mais il voulait à tout prix nous couper de ce monde.
Quand vous arrivez à Janson-de-Sailly, vous allez rencontrer un certain nombre de camarades qui, ouais, aussi plus tard, vont faire les grandes écoles.
Ouais. J'ai rencontré, en effet, à cette époque, au lycée, Jean-Louis Bianco, Thierry de Montbrial, des gens qui ont ensuite fait des études avec moi.
Laurent Fabius,
un peu plus tard, oui. Aussi, oui.
Quelle est l'atmosphère de ce Paris 16e arrondissement, milieu des années 50, en plein événement d'Algérie?
Fin des années 50, c'est les surprises parties, c'est les études très sérieuses. C'était le lycée, la maison, hein, c'était rien d'autre. Je faisais du sport beaucoup, je faisais du handball, j'étais gardien de but de l'équipe du lycée. Et puis c'était les études. Et puis les études ont continué, puisque je suis resté au lycée très tard, puisque j'ai fait maths sup et maths spé à Janson. Donc je suis resté à Janson après le bac. Je me souviens très bien de l'affaire des missiles d'octobre 61 ou... 62, où je suis parti de la maison pour aller au lycée en me disant peut-être que je rentrerai pas parce qu'il y aurait une guerre nucléaire qui va se déclencher. J'avais vraiment conscience politique. Peut-être que mon premier sentiment de conscience politique, c'est en Algérie, je me souviens, la défaite de Dien Bien Phu. J'avais été très marqué par ça.
Donc 54.
Oui, très très marqué par la défaite. Et je me souviens, là, j'ai appris la défaite alors qu'on était dans notre villa à côté d'Alger. Et mon père a dit ça va se terminer comme ça ici aussi. C'est là où j'ai senti qu'il avait raison, qu'il a dit on ne gagne pas une guerre coloniale. C'était une guerre coloniale se perd toujours. Ce qui était courageux de sa part, enfin très lucide. Et donc j'ai vécu tout ça. En 58, j'étais à la fois partagé, puisque j'étais pour l'indépendance algérienne, mais De Gaulle arrive comme un coup d'État, et j'ai ressenti l'arrivée de De Gaulle comme un coup d'État. Et mon père, qui était anti-gaulliste et pour l'indépendance algérienne, était contre De Gaulle, qu'il voyait comme un adversaire de l'indépendance algérienne. Puis ensuite, quand De Gaulle a organisé l'indépendance algérienne, il était de nouveau contre De Gaulle parce qu'il trouvait qu'il la faisait très mal et qu'il aurait fallu créer les conditions pour que les pieds noirs restent en Algérie, ce qui évidemment eût été possible. On peut rêver d'un monde où De Gaulle se serait conduit comme s'est conduit le président sud-africain, De Klerk, qui a organisé la libération de Mandela pour créer les conditions d'un accord. Si De Gaulle avait été l'équivalent, et c'est normal que De Klerk ait eu le prix Nobel en même temps que Mandela, si De Gaulle s'était conduit comme De Klerk, il aurait libéré Ben Bella et créé les conditions d'un accord, et on aurait peut-être eu le rêve d'une Algérie où les Français auraient pu rester comme citoyens français ou algériens, enfin peu importe, non c'est important, mais mon père était très fâché de la façon dont De Gaulle brûler les vaisseaux des Français d'Algérie et les forcer au départ.
Quelle était votre identité, en tout cas, comment était-elle perçue en France à cette période-là? Vous n'êtes ni rapatrié, ni vraiment pied noir, des petits Parisiens d'adoption.
On a toujours été considéré, je me suis toujours considéré comme un Français, le français était ma seule langue, les autres étaient des langues étrangères. Rien d'autre que français. Et nous étions... Vous savez, j'avais le sentiment d'être un provincial qui monte à Paris, rien de plus, quoi. Et rien de plus qu'un provincial. D'ailleurs, on n'était pas considérés comme autre chose que des provinciaux qui montaient à Paris.
Vient la période où vous faites vos prépas, puis alors là, il y a un cursus splendide de grandes écoles qui vous attend. Et vous êtes d'ailleurs souvent, Jacques Attali, présenté comme ça. Ça reste très très important, même encore à 72 ans, major à Polytechnique.
Ben, vous-même, vous y retombez, vous voyez. Mais c'est vrai que comme j'ai fait un parcours universitaire un peu particulier, tout le monde éprouve le besoin de le répéter, ce qui est un peu insupportable. Mais bon, je trouve que j'ai eu le sentiment de franchir plusieurs seuils intellectuels. Comme si j'enfonçais des murs. En première, j'étais bon élève sans plus, mais en terminale, j'étais premier partout, et puis en maths sup, j'étais plus que premier partout, et à Polytechnique, où je suis rentré pas très bien classé, 40e ou quelque chose comme ça, je suis devenu tout de suite premier, et puis à ce moment-là, j'ai même eu un sentiment un peu particulier de franchir des murs et de résoudre des problèmes que les autres ne résolvaient pas, donc j'ai eu le sentiment à chaque fois de voir s'ouvrir des moyens intellectuels que je ne pensais pas savoir. Mais par le travail, c'est pas du tout une baguette magique. Le travail me permettait un petit peu, j'ai toujours eu le sentiment d'être quelqu'un qui donne des coups d'épaule dans une porte et puis elle finit par casser, quoi. Mais il faut lui donner les coups d'épaule. Et c'est la même chose dans le travail intellectuel. Je donne des coups d'épaule, je travaille beaucoup, puis à un moment, certaines choses s'ouvrent, et puis quand ça s'ouvre et ça devient facile pendant un moment jusqu'à rencontrer une autre porte fermée.
Alors même que le travail est en marche et que on a le sentiment que la formation intellectuelle très très active se déroule, il y a en parallèle, on a l'impression dans votre cursus, cette recherche de créativité, l'écriture, la musique, comme des champs immenses, incommensurables, à côté des disciplines.
Et je continue à faire du piano, bien sûr, j'ai même écrit ma première pièce de théâtre en étant à Polytechnique, que j'ai pu faire monter et que j'ai mis en scène. Puis je continue à écrire. Très vite, je me souviens d'une conversation là-dessus où on me demandait ce que je voulais faire plus tard et j'ai répondu, je voulais être le Raymond Aron de la gauche. Voilà, c'était mon objectif. Ce que mon père n'aimait pas trop parce qu'il voulait que je fasse de la recherche.
Parce que Raymond Aron n'était peut-être pas assez à gauche pour votre père.
Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il n'était pas un vrai chercheur au sens où... D'ailleurs, dès que j'ai commis le péché à ses yeux de ne pas faire médecine, il s'est consolé en disant tu vas faire de la recherche en maths, tu vas faire de la recherche en économie, tu vas découvrir la réponse au chômage. Enfin, c'était son obsession. Et donc je me suis très vite dit il faut que je sois indépendant, il faut que je dépende de personne, ni de l'argent de mon père, ni d'un métier. Donc c'est pour ça que j'ai fait toutes mes études pour arriver là où je suis arrivé, c'est-à-dire au Conseil d'État, parce que je me suis dit c'est le seul endroit où je serai vraiment indépendant. Et on ne me cassera pas les pieds. Donc voilà. Donc j'ai fait ces études pour ça, je suis arrivé là, et puis là j'ai commencé à... J'ai publié mon premier livre à ce moment-là, qui était un livre... Parce qu'en même temps j'étais nommé prof à l'IX, j'ai commencé à enseigner à l'IX, enfin, maître de conférence.
Vous êtes le très très jeune maître de conférence de l'IX, hein,
oui,
à 24 ans.
Je commence, c'est ça, 24 ans. Je commence avant mai 68, alors que je suis encore... pas encore rentré même à l'ENA, donc j'enseigne à l'IX alors que je suis élève à l'ENA. Et puis ensuite, je suis confirmé comme maître de conférence en sortant de l'ENA, parce que je reste pendant presque 20 ans, puis je commence à enseigner aussi à Dauphine, puis d'autres écoles, et puis je publie mon premier livre, qui est un livre de maths, qui est l'utilisation des modèles mathématiques de l'économie à la science politique. Je publie deux livres. D'ailleurs, c'était un peu bizarre parce que j'ai fait un manuscrit pour publier mon premier livre. Et puis, je suis comme un impair de le donner à deux éditeurs. Et les deux éditeurs l'acceptent tout de suite. Donc, je suis un peu embarrassé. Donc, je suis obligé d'écrire un deuxième livre pour l'autre, voilà. Et puis, je commence à écrire des articles. Bon, mes articles paraissent d'abord dans le Figaro, puisque il y avait un merveilleux journaliste qui s'appelait Alain Vernet qui me publiait, qui a trouvé de l'intérêt à ce que je disais. J'ai pu, mon premier article paraît en première page du Monde, alors que je devais avoir 26 ans, 27 ans. Alors c'était la première page du Monde à l'époque, qui publiait parfois des éditoriaux d'extérieur. Première page du Monde. Et voilà, je continue à enseigner, je vais faire des séminaires aux États-Unis. Et en même temps, je suis au Conseil d'État.
Il y a le sentiment que, aussi vite les écoles faites, vous cherchez au contraire à vous en détacher et que ce qui va être plus tard votre marque de fabrique, ça va être la recherche d'une pensée originale.
Oui.
Alors, petit à petit, vous cherchez à vous détacher. Il y a et cette élite, vous la critiquez tout de suite, à peine sortie des grandes écoles.
Bah, tout de suite, parce que...
Vous en observez les limites.
Oui, parce que d'abord, j'aurais pu, vu mon classement, entrer à l'inspection des finances. Et j'ai pas voulu, je préfère entrer au Conseil d'État. Et il y a une énorme pression de l'inspection des finances, comme il y avait une énorme pression du corps des mines, puisque j'étais aussi ingénieur des mines, pour que je reste corps des mines, qui étaient les deux sommets de la de l'establishment, le corps des mines pour les ingénieurs, l'inspection des finances. Et j'ai refusé les deux, parce que mon obsession était d'être libre, d'être indépendant, de pas avoir une pensée conformiste, de pouvoir écrire, de pouvoir réfléchir tranquille, et de ne pas avoir de patron. Je voulais pas de patron, d'ailleurs je n'ai jamais eu de patron dans ma vie, sauf une fois avec François Mitterrand, mais on peut pas dire que c'était un patron. On y reviendra peut-être, mais... Donc je voulais avoir du temps pour écrire, et donc j'ai commencé à publier mon premier livre, je pense que j'avais 28 ans. Puis ensuite, avec un copain qui était aussi comme moi prof à l'IX, on a publié un livre très iconoclaste qui s'appelle L'Anti-économique, qui a eu énormément de succès, donc c'est la première fois que je deviens visible, c'était en 73. Et puis là, je deviens encore plus visible pour une autre raison, c'est que François Mitterrand, que j'avais rencontré à plusieurs reprises, me demande de diriger sa campagne présidentielle.
Il y a eu comme des rencontres prémonitoires avec François Mitterrand. Vous vous êtes rencontrés, re-rencontrés, oui. re-rencontrés. Jacques Attali, vous pouvez nous raconter cette petite chronologie ?
La première fois qu'on se rencontre, c'est en janvier 66, je le date avec précision, puisque c'était un mois après sa défaite aux élections présidentielles de 68, et on se rencontre dans une boîte de nuit, plus exactement dans un cabaret, je me demande ce que je faisais là d'ailleurs, c'était un dîner, une sorte de cabaret de dîner, où on dînait, j'étais avec une demoiselle et lui était avec une demoiselle aussi, et on n'était pas ensemble bien sûr, mais quand il s'est levé pour sortir, j'étais vers lui, je dis « Monsieur, je voudrais travailler avec vous », j'avais 22 ans. Et il me demande pas qui je suis du tout, et il me dit « Venez me voir, prenez rendez-vous, voilà mon numéro de téléphone ». Un peu sec quand même, donc je prends rendez-vous avec lui, donc on est en 66. Il me reçoit, rue Guinmer, où il habitait, et puis il me demande qui je suis, donc je lui défile mon curriculum. À cette époque, j'étais encore étudiant, parce que je terminais l'IX et je rentrais à Sciences Po, donc le fait d'être major de l'IX l'avait un peu impressionné, et je lui dis j'aimerais travailler avec vous. Et là, il montre une carte de France étalée sur son piano, et il me dit voilà, il y a toutes les circonscriptions à prendre, je suis en train de créer un groupe de jeunes parlementaires, vous avez toutes vos chances, prenez une circonscription, labourez le territoire. Non monsieur, ça c'est pas pour moi, j'ai pas envie d'être parlementaire.
Il voulait que vous présentiez, et vous c'était pas du tout votre projet.
Et ça a été quelque chose qui m'a répété 10 fois, il a 10 fois tenté de me faire me présenter, me faire être ministre ou dirigeant du Parti Socialiste, et j'ai toujours refusé. Parce que je voulais rester libre, pouvoir dire que mes adversaires ont raison, changer d'avis, ne pas dépendre d'une discipline de parti, etc.
Ça, c'est la première rencontre.
La deuxième rencontre, c'est que je termine l'école des mines par un stage. Je refuse de faire un stage dans les mines, mais j'obtiens de faire un stage dans une banque à New York. Donc, je suis en stage l'hiver 67-68 à New York. Derrière, il faisait un froid épouvantable. Il y avait une crève des éboueurs. C'était passionnant et terrible. Je rentre à Paris en avril 68, alors que ma promotion a commencé en janvier 68, son stage. Et j'arrive, et je devais rester CITA parce qu'il fallait que je termine l'école des mines. Donc j'arrive à l'ENA après le début de la scolarité de l'ENA, où j'étais rentré par concours normal.
Préparé par Chevènement ?
Jean-Pierre Chevènement m'avait en effet fait passer des examens blancs, comme un autre, François Buchon de l'Étang, qui était aussi, m'a fait papa. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Pierre, et c'est lui qui m'a fait entrer au CRS et au Parti Socialiste à ce moment-là, en 67. Et puis j'arrive à l'école à l'ENA, où le directeur des stages, très pincé, me dit « Monsieur, vous n'avez pas le choix, tous les stages ont été pris, vous êtes obligé d'aller dans le seul stage disponible. » J'ai dit « Écoutez, moi je voudrais être resté près de Paris, parce que tous les vendredis, je dois revenir faire mes cours à Polytechnique. » J'ai dit « Mais vous exagérez, vous êtes un élève, vous n'êtes pas professeur. » J'ai dit « Mais il faut que je rentre le vendredi. » Vous verrez, vous ferez comme vous voulez, mais vous êtes affecté à la préfecture de la Nièvre. » Et j'arrive à la préfecture de la Nièvre, président du conseil général François Mitterrand, Le 1er mai 1968. Et donc j'ai vu mes 68 à la fois depuis la Nièvre et depuis Polytechnique, où j'avais été faire un cours, puisque le vendredi 13 mai, je crois bien que c'était un vendredi 13 mai, je suis venu à Paris faire mon cours, et pas eu de cours, parce que c'était déjà les émeutes dans les rues, et je suis retourné, et là j'étais de l'autre côté de la barricade, puisque j'étais directeur adjoint du cabinet du préfet, où on maniait la police, et où j'ai eu la chance d'avoir un préfet très républicain, un secrétaire général magnifique, qui était de gauche. Étonnamment, ces gens-là étaient affectés dans ce département, et j'ai beaucoup apprécié l'attitude de François Mitterrand, avec qui j'avais pas de contact du tout. Hein. Je l'appelais Monsieur le Président, puisqu'il était président du Conseil Général.
C'était la blague générale, non? De l'appeler Monsieur le Président?
Ah non, c'était pas une blague, il était président du Conseil Général, on l'appelait Monsieur le Président.
C'est encore prémonitoire.
Voilà. Et puis, fin mai 68, il fait ce que moi j'ai trouvé très bien, ce qu'on lui a beaucoup reproché après. Moi j'ai trouvé très bien qu'il dise « si De Gaulle s'en va, je serai candidat ». Ça a été présenté comme un coup d'État, mais c'était pas... Et puis on n'a pas eu de contact du tout à ce moment-là. Et le contact s'est renoué plus tard, quand je suis entré au Conseil d'État, où aussi par hasard, mais vraiment par hasard, dans ma sous-section, il y avait son meilleur ami, Georges Daillat, qui, alors que moi je travaillais avec Jean-Pierre Chevènement au Parti Socialiste et avec André Bouloche, qui est mort par ma faute, je peux dire ça ainsi, parce qu'il a pris un avion que j'aurais dû prendre par le hasard des destins. Et Georges Daillon me représente à François Mitterrand et dit à François Mitterrand, écoute, il faut que tu vois Jacques Attali, il fait des notes d'économie pour le groupe parlementaire. Je les lis, dit François Mitterrand, ce qui n'est évidemment pas vrai. Et Georges insiste, il faut que tu le vois.
Georges Daillon, qui est le meilleur ami de François Mitterrand, qui le tutoie.
Qui le tutoie, qui était un compagnon depuis avant la guerre, donc... Et François Mitterrand, bon, qui vient de me voir, j'étais avec lui, c'était à la mutualité, j'avais été les rejoindre quelques minutes, il dit, venez me voir la semaine prochaine, j'aurai 5 minutes. Et donc j'arrive rue de Bièvre, on était en, je pense, février 74. Donc j'étais au Conseil d'État, j'avais publié, et il me reçoit, et je me souviens, j'avais préparé, je savais qu'il avait une émission de télé quelques jours plus tard, j'avais préparé 5 feuilles de papier blanc, avec une ligne dessus. C'était vraiment insultant, parce que c'était vraiment une phrase de une ligne. C'était l'économie appliquée, expliquée aux enfants, quoi. Il y avait 5 phrases. Et je lui tends les phrases, je ne sais pas l'autre. Et au bout de 20 minutes, il me dit, le seul compliment qu'il m'ait jamais fait de sa vie, d'ailleurs, « Ah, enfin, je comprends quelque chose à l'économie. » Il ne m'a jamais fait le moindre compliment depuis. On est resté 2 heures. C'était vraiment une sorte de coup de foudre intellectuel. Et puis, il me dit de revenir le voir pour préparer un discours au Parlement. Et puis, le jour où je devais le voir, la veille, la radio ou la télévision annonce la mort de Georges Pompidou. Donc, il me téléphone le lendemain en me disant « Peut-être vous avez vu les informations, je vais être un peu occupé aujourd'hui. Venez demain matin chez moi. » Et donc, j'arrive rue de Bièvre, et je vois qu'il est... Je rentre dans la cour, et je vois que dans la salle à manger, qui était une sorte de cuisine au rez-de-chaussée, il y avait lui, et puis il y avait toute une série de gens que je connaissais que par les photos, c'est-à-dire Pierre Mauroy, Gaston Defer, tous les dirigeants socialistes.
Les ténors.
Les ténors. Et moi, je suis là dans la cour, je ne sais pas quoi faire, et il y a sa secrétaire, qui est restée sa secrétaire pendant tout le temps, Marie-Claire Paquet, qui descend, me dit, entrez, il vous attend.
Je dis, vous avez 30 ans, à ce moment-là?
30 ans, oui. Juste 30 ans. Et j'entre dans la salle, et je l'entends dire, comme vous savez maintenant, je serai candidat aux élections présidentielles, mais je vais être candidat hors du parti. Et j'ai décidé d'organiser mon équipe de campagne sans le parti. Donc le directeur de la propagande, il appelait ça comme ça, ça sera Claude Perriel, qui était à l'époque le patron du Nouvel Obs. Le directeur des finances, ça sera André Rousselet, qui était son ami aussi, comme Georges Daillon, et qui était le patron des taxis G7 et qui l'a confié à la trésorerie. Et le patron de la campagne, le patron du programme, c'est Jacques Attali. Il ne m'en avait pas demandé, et on s'était vu 2 fois. Et Gaston Defer dit, mais Attali, c'est qui? Je lève la main, et dit, c'est moi. Et j'étais absolument terrifié, parce que personne ne m'avait demandé, c'était une responsabilité incroyable.
Terrifié, excité, amusé, heureux?
Non, j'étais plutôt angoissé, parce que c'était... dirigé d'une campagne présidentielle, alors qu'on n'a pas la moindre idée de ce que c'est, de ce que ça veut dire. Donc, tout le monde s'en va, je reste avec lui seul, ce qui était le signe de... Et on marche dans cette petite cour, et il me dit, vous savez, Pompidou est mort 6 mois trop tôt, je vais faire 11 200 000 voix, Giscard fera 11 400 000 voix, et je serai battu. Il s'est trompé de 100 000 voix. C'est exactement ce qui s'est passé. Et Et dans cette journée-là, il y a eu un événement un peu anecdotique, mais celle qui était l'attachée de presse, Nathalie Duhamel, m'appelle en me disant, les journaux demandent l'organigramme, je te présente comme quoi. Il m'a dit directeur de campagne. Bon, mais évidemment, tu es directeur de campagne, mais qu'est-ce que j'explique sur toi? Je dis, écoute, j'ai pas pu joindre le vice-président du Conseil d'État, ça m'ennuie qu'on publie mon nom. T'as qu'à mettre un pseudonyme. Un pseudonyme, dit-elle. Je dis, oui, tu prends... J'avais publié des articles sous un pseudonyme qui était Simon Terre, parce que Simon, initial, c'est Simon, c'est S. Esther, c'est Athalie de Racine, donc c'était un petit jeu de mots bête. Donc je dis ce pseudonyme. Et Le Monde, donc on est entre 11h et 3h d'après-midi, Le Monde publie l'organigramme de la campagne, avec directeur de campagne Simon Terre, avec une astérix en bas. Sous le pseudonyme de Simon Terre se cache le jeune auditeur au conseil d'État, Jacques Attali. Je reçois un coup de téléphone de François Mitterrand.
Aussitôt démasqué.
Oui, je reçois un coup de téléphone de Mitterrand. À ce moment-là, il n'y a pas de mobile, hein, c'était sur les fixes. Bon. Un coup de téléphone. Vous avez pris un pseudonyme? Je dis oui, parce que vous comprenez, j'ai pas pu joindre le vice-président du Conseil d'État. Je dis, mais vous prenez pour qui? Vous croyez dans la résistance? Évidemment, lui, il avait eu des pseudonymes pendant la résistance. Il était très, très fâché. Il me dit, vous avez honte de travailler pour moi? Je dis, non, monsieur, non. Et il était à ce moment-là avec Pierre Jox. Je me souviens, il me l'a raconté après. Et Pierre Jox l'a calmé en disant, écoutez, il a raison, parce qu'il est haut fonctionnaire, il peut pas tout de suite, il fallait l'accord de son chef de service. Pierre l'avait un peu calmé. Mais bon, voilà, comment ça s'est fait?
C'est, la récompense aussi de l'originalité. Mitterrand a fait confiance à des jeunes esprits.
Oui, il était
un peu décalé.
Oui, il était comme ça. Il était comme ça et il aimait beaucoup les marginaux. D'ailleurs, il a tout toléré de moi, puisque pendant le lendemain, il me dit, venez avec moi voir commencer un meeting. Donc, je pars avec lui en voiture. Et je lui dis, monsieur, j'ai accepté avec fierté de travailler pour vous, mais diriger cette campagne, mais j'ai deux questions à vous poser. Allez-y. On est en voiture, tous les deux, avec un chauffeur devant. Et je lui dis, monsieur, je voudrais comprendre pourquoi vous avez la Francisque et qu'est-ce que c'est que l'affaire d'Observatoire. Ces histoires étaient connues. Donc il m'explique l'Observatoire. Je pense que son explication reste la vraie, c'est-à-dire il s'est fait rouler par quelqu'un qui lui a fait croire qu'il allait être assassiné. Lui, si François Mitterrand ne se prêtait pas à ce piège, c'était grotesque, mais je crois que c'était vrai. Et sur la Francisque, il m'explique qu'il s'est évadé trois fois d'Allemagne, en ne me disant pas qu'il s'évadait pour rejoindre une copine, parce que son évasion n'était pas une évasion de résistance, mais il était très amoureux de Catherine Langer, donc il était plutôt s'évader. Il me dit qu'il est allé à Vichy, qu'il y est resté quelques semaines et qu'il est passé dans la résistance.
Donc il vous ment?
Il me ment sur la durée. Il n'est pas resté quelques semaines, il est resté 18 mois. Donc il me ment. Comme il a menti à tout le monde, à ce moment-là. Et c'est là-dessus que, sur ce malentendu, que s'est construit notre amitié.
Merci Jacques Attali.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Maïlys Besseri avec Jacques Attali. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son Georges Thau, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.